Je commence par m'excuser pour mon absence de ce matin, puisque je n'ai pas pu modérer la séance pour des raisons indépendantes de ma volonté. Et donc, effectivement, je vais essayer de parler au nom d'Alimana Batili à Marc Afri, qui n'est pas là, mais aussi au nom d'un certain nombre d'autres acteurs. Bon, ceux qui me connaissent savent que ça fait un certain nombre d'années quand même que je fréquente un certain nombre de radios africaines. Au nom de Fulgence... D'accord. Au nom de Fulgence Mungenga, que vous ne verrez pas non plus demain parce que l'ambassade de Belgique lui a refusé son visa vendredi. Au nom de Jolie Kamuntu, directrice de Radio Mindeléo à Bukavu, parce qu'il faut compter un mois et demi pour obtenir un visa pour quelqu'un de Bukavu pour arriver à Bruxelles. Et donc, voilà, il y a aussi des expressions minoritaires dans le monde. Et l'organisation d'une manifestation comme celle-ci et le fait qu'on ne soit pas parvenu à faire venir plus d'acteurs médiatiques africains montre bien que même au niveau mondial, il y a des problèmes quand on veut faire entendre certaines voix. Alors heureusement, Eric Manirakiza, le directeur de la RPA de Bujumbura, est là et vous l'entendrez demain. En attendant, je vais essayer en tout cas de me faire la porte-parole de toutes ces personnes qui n'ont pas pu venir, que ce soit des personnes du Congo, du Tchad ou du Burkina Faso. Alors, l'intitulé du débat de cet après-midi est le défi de la régulation. Et j'ai envie de dire que pour les acteurs des radios communautaires africaines, la question, c'est plutôt le défi d'être régulé. Le défi d'être régulé par qui, régulé comment, régulé pourquoi. Parce que se laisser réguler, ça nécessite d'abord que l'on reconnaisse la légitimité du régulateur. Alors vous avez entendu Babacar Touré tout à l'heure. Il est à la tête d'une instance qui a des relations, je pense, extrêmement constructives avec l'ensemble des acteurs de la radio communautaire sénégalaise. Ce n'est pas la situation qui prévaut dans la plupart des pays d'Afrique francophone. Ce n'est pas la situation qui prévaut depuis la libération et la libéralisation des ondes il y a maintenant 23 ans, au début des années 90, où on a vu dans certains pays se créer une multitude de radios sans base juridique, sans encadrement régulatoire, et dans d'autres pays, on a vu se mettre en place des dispositifs qui ont petit à petit contraint le secteur et l'empêcher de se développer de manière vraiment dynamique. Et donc aujourd'hui, je parle pour l'Afrique francophone, les 17 pays de l'Afrique francophone. Dans la majorité des pays, les relations entre le régulateur et les acteurs de la radio communautaire et associative sont extrêmement conflictuelles. Alors elles sont conflictuelles pour deux raisons. La première raison, c'est à cause des régulateurs eux-mêmes. Les régulateurs, Eric l'a évoqué tout à l'heure, sont des instances souvent politisées, dont les membres sont nommés par les chefs d'État, qui sont au service d'un parti au pouvoir et qui prennent des décisions en fonction du parti politique dont ils servent les intérêts. Ceux d'entre vous qui suivent un peu l'actualité congolaise, parce qu'en Belgique, on suit un peu l'actualité congolaise, vous avez peut-être suivi un peu les élections de 2011 et vous avez peut-être vu comment le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a pris des mesures et des sanctions systématiques à l'encontre de certains médias audiovisuels pendant la campagne électorale, qui étaient tous des médias audiovisuels proche de l'opposition politique au président Kabila. Alors cette politisation se manifeste dans les sanctions, dans les suspensions, se manifeste dans les modalités d'octroi de cette fameuse aide publique aux médias privés, qui dans beaucoup de pays d'Afrique est une aide absolument empoisonnée, qui est arrivée à diviser le secteur et à diviser les acteurs plus qu'à les encourager à progresser, parce qu'elle a été politiquement manipulée par les régulateurs impliqués dans la distribution de cette aide. Donc ce sont des instances politisées, ce sont des instruments qui se changent souvent en instruments de répression. Ce sont des instances aussi auxquelles les acteurs associatifs et communautaires reprochent souvent leur incompétence, à compétence, entre autres au niveau technique, puisque on retrouve parmi les membres de ces conseils des personnes qui n'ont aucun profil qui leur permette d'expliquer les raisons pour lesquelles ils siègent dans une telle instance. Et puis les conflits entre les acteurs communautaires associatifs et les régulateurs se sont évidemment focalisés autour des questions de contenu. Et entre autres autour de deux questions. La première, c'est la possibilité pour ces acteurs radio communautaires et associatifs de diffuser de l'information dans un contexte, ça a été évoqué par Étienne Damome tout à l'heure, où les médias publics, il a été gentil tout à l'heure, il a dit sont des médias d'État, j'irai même plus loin en disant ce sont des médias gouvernementaux, ce sont des médias qui sont au service des ministres, même pas de l'État en entier. Les radios communautaires et associatives ont permis d'offrir une autre perspective sur l'information, ont permis de donner la parole à l'opposition politique, ont permis de tendre le micro à des membres de la société civile, à des membres de syndicats qui ne pouvaient pas être entendus sur les ondes des radios nationales. Et donc, évidemment, une série de régulateurs, je n'entre pas dans les détails ni des lieux ni des dates, mais une série de régulateurs vont interdire à ces radios communautaires et associatives de diffuser de l'information générale, en essayant de les cantonner dans un rôle d'information locale, d'information relative au développement ou d'information culturelle. Une deuxième source de conflit et qui demeure un problème jusqu'à aujourd'hui, ce sont les émissions participatives, c'est-à-dire toutes ces émissions à travers lesquelles des citoyens peuvent appeler, donner leur avis, interpeller des invités, commenter la vie politique. Et ce sont des émissions qui sont extrêmement importantes dans les radios communautaires et associatives africaines, qui ont pris une ampleur très très importante avec le développement de la téléphonie mobile, puisque tout le monde n'avait pas l'accès au téléphone fixe, mais avec le développement fulgurant de la téléphonie mobile, les citoyens aujourd'hui peuvent appeler la radio, peuvent interpeller des invités qui sont en studio, peuvent faire valoir leur point de vue. Et de nouveau, on a vu une série de régulateurs se positionner pour interdire ce type d'émission participative ou pour poser des conditions extrêmement strictes sous prétexte que ces émissions étaient animées par des non-professionnels et qu'il y avait effectivement des débordements. Alors, une troisième source de conflit, ce sont les obstacles qu'un certain nombre d'instances de régulation mettent pose volontairement au développement des radios communautaires et associatives à travers des contraintes administratives énormes qui sont telles que aucun acteur fragile communautaire local ne peut y répondre. Je pense qu'au Burundi, pour l'instant, il y a des négociations en cours. Enfin, la nouvelle loi sur la presse, il y a eu des débats autour du fait que chaque radio allait devoir repostuler chaque année pour une nouvelle fréquence et donc allait devoir redemander année après année que lui soit octroyé une fréquence, mais aussi des contraintes qui sont mises dans les roues des radios au niveau financier, entre autres par le biais d'une panoplie d'impôts, impôts nationaux, impôts locaux. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, il y a différents niveaux de pouvoir. Chaque niveau de pouvoir invente à volonté de nouveaux impôts qui sont imposés aux radios communautaires et associatives. Alors, bien sûr, Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Babacar Touré tout à l'heure. Ces radios présentent un certain nombre de fragilités, présentent un certain nombre de problèmes. Et donc, dans ce bras de fer avec le régulateur, elles ont aussi leur part de responsabilité, elles ont aussi leur part de tort. Premier problème, Boubacar l'a dit tout à l'heure, ce sont souvent des radios qui, en définitive, ne sont pas communautaires, mais appartiennent à un individu. Parfois un individu qui a d'ailleurs une appartenance politique affichée ou un leader religieux. Deuxièmement, ce sont des radios qui sont très rarement en ordre d'un point de vue administratif, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue légal. Troisièmement, ce sont des radios qui ne respectent pas la réglementation minimale. Par exemple, en faisant de la publicité commerciale pour des boissons alcoolisées, alors qu'elles sont supposées être radio communautaires et n'être pas autorisées à diffuser ce genre de publicité. Évidemment, cela pour des raisons financières. Et ça nous envoie évidemment à la question la plus fondamentale pour les radios communautaires et associatives d'Afrique, qui est la question du développement de ces médias dans un contexte d'extrême paupérisation du public. Et donc évidemment, ces radios ne peuvent pas vivre des contributions des auditeurs, qui vont venir apporter 100 francs CFA pour publier un communiqué nécrologique ou faire passer une annonce parce qu'ils ont perdu leur vache et ils veulent donner sur le marché le signalement de leur vache pour qu'on la leur retrouve. Évidemment, ce n'est pas avec cette accumulation de 100 francs CFA plus 100 francs CFA que l'on peut faire vivre une radio, même à minima. Donc le public cible est un public paupérisé. C'est un public qui n'intéresse pas trop les annonceurs potentiels parce que finalement, un public paupérisé, ce n'est pas non plus un consommateur potentiel. Et ces radios ne bénéficient pas, en général, de financement public. Et donc, on se trouve dans une situation où les radios que je vous ai mentionnées tout à l'heure, Radio Mandeleo à Bukavu, Radio Liberté au Tchad, sur laquelle vous verrez un film demain, la radio d'Eric RPA à Bujumbura, sont des radios qui sont dépendantes de l'aide étrangère. Elles sont dépendantes des ONG internationales, elles sont dépendantes des projets internationaux qui vont les accompagner et leur apporter les moyens de fonctionner. Alors dans un État comme celui du Burundi, où l'État lui-même, le budget de l'État lui-même dépend à 60% de l'aide étrangère, comment reprocher à des acteurs radiophoniques d'être complètement dépendants à hauteur de 85% de leur budget, de l'argent de la communauté internationale ? Mais évidemment, c'est une situation qui est extrêmement problématique parce que ça fragilise ces acteurs, ça les rend aussi perméables à un certain nombre de pressions parce que la communauté internationale décide de les soutenir, mais va aussi parfois essayer de peser d'une certaine manière sur la ligne éditoriale, c'est-à-dire en encourageant ces radios à diffuser certains types de programmes pour la réconciliation, pour la paix, etc. Et donc, cette question du financement, cette question de la dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds, on constate quand même que la plupart des grosses radios, des radios associatives et communautaires qui sont parvenues à se consolider, à survivre, n'ont pu le faire que grâce à cet appui de l'argent étranger. Et ça pose toute la question, évidemment, du dispositif de la coopération internationale et de ce que l'Occident soutient et comment il le soutient dans des pays en démocratisation en Afrique. Et enfin, pour conclure, je voudrais insister sur un dernier point qui me semble extrêmement important pour les radios communautaires et associatives d'Afrique, c'est la question énergétique. Alors ici, on est en train de parler de technologie, on est en train de parler de standards. Moi, je vous parle de contextes dans lesquels des radios se développent dans des pays où 80-85% du pays n'est pas électrifié, où les radios fonctionnent avec des générateurs, où c'est un défi permanent d'essayer de trouver du carburant pour remplir le générateur pour faire fonctionner la radio, où c'est un défi permanent pour les auditeurs de trouver de quoi acheter des piles pour mettre dans leurs petits transistors achetés à grand coût d'économie pour pouvoir écouter la radio. Et donc, je pense que par rapport aux enjeux, aux défis auxquels sont confrontées ces radios, la question de l'énergie, et donc qui est la question plus générale de que font les États pour mettre leur population dans un degré minimum de confort matériel et dans un degré minimum d'accès aux éléments de base que sont l'électricité et l'eau, les questions sont posées et restent malheureusement à ce jour des questions qui sont des défis quotidiens pour les radios communautaires et associatives d'Afrique.